celle que Frédéric Tandy qui s'occupe, qui est responsable, qui est directeur, je ne sais pas comment dire, conservateur, responsable du musée. Alors c'est un musée un peu fantôme pour l'instant, mais c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'on va creuser. C'est le musée, donc un musée qui a été longtemps très important à Lyon dans le symbole qu'il représentait, hein, c'est le musée des Hospices Civils de Lyon. Donc les Hospices Civils de Lyon, je ne sais pas si vous voyez, c'est cet immense hôpital qui est sur les bords du Rhône. Non, les Hospices Civils de Lyon, c'est énorme, hein, c'est pas cet hôpital. L'Hôtel Dieu, qui était donc un peu le lieu où se trouvait le musée il y a quelques années des Hospices Civils de Lyon, Hospices Civils de Lyon qui englobe énormément, enfin pas mal d'hôpitaux de l'agglomération lyonnaise. Le musée des Hospices Civils donc, était à l'Hôtel Dieu, et l'Hôtel Dieu a été transformé, ça a coulé beaucoup d'encre, ça a créé beaucoup de colère, en hôtel de luxe aujourd'hui, qui est donc sur les bords du Rhône, qui donc a contraint le musée à ranger ses objets dans des boîtes et ses traces dans des cartons. Et du coup, Sergueï s'occupe d'un ensemble, d'une collection qui est là, qui est constituée, qui est pleine de richesses, etc. Mais il n'y a pas de lieu. Alors, Sergueï faisait partie de notre petit comité de pilotage, dont nous avons eu l'occasion d'en discuter, mais moi j'adore les musées fermés. Je trouve que c'est souvent le moment où ils sont les plus ouverts. Alors, vous avez vu d'ailleurs, mon micro s'arrête de parler au moment où je dis cette chose-là, mais on a décidément... Si, ça va ? Là, on entend ? Ça arrête tout le temps, ça fait du bien. Tout s'est arrêté. C'est pas grave, je peux parler fort. Voilà, on ne parle jamais mieux que quand les micros sont fermés. C'est comme
et comme les musées.
Voilà. Alors, donc voilà, parce que les musées fermés... C'est un peu comme les arbres morts sont pleins de vie, ben les musées fermés sont vraiment plein d'ouvertures et ils vont du coup chercher à l'extérieur aussi un ancrage et du coup construire des partenariats assez étonnants, assez improbables, assez ouverts avec des gens. Donc voilà, donc je laisse la parole à Sergueï qui va nous parler d'un projet qu'il a mené avec deux dames qui sont à Maïgo, je n'ai pas retenu le nom par cœur, mais Carole et Nina Jacquet et Sarah Rambeau, voilà, qui sont toutes les deux de l'association Spécimen et qui vont nous raconter ensemble cette aventure.
Ça, tu fais comme tout le temps, hein, c'est vraiment. En deux secondes, il va marcher. Bonjour et merci à toutes et à tous. Merci Cécilia, merci particulier à Joël Lemarec que j'ai le plaisir de retrouver ici après avoir beaucoup appris à vos côtés il y a maintenant quelques années. À l'époque sur les études de public. Alors, il était question tout à l'heure d'un contexte, on va vous présenter le contexte qui nous mène jusqu'à la médiation de l'Hôtel Dieu à la Loupe que nous avons réalisé cet été à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants. Et j'excuse Philippe Bonhomme, référent animateur dans cet hôpital, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Nous n'avons pas encore de livre, c'est vrai que c'est assez récent. Par contre, nous avons amené le jeu que vous avez pu et que vous pourrez découvrir près de la banque d'accueil à l'entrée de la salle. Pour rappeler le contexte, alors c'est assez particulier, le musée des Hospices Civils de Lyon par rapport au dispositif culture et santé, puisque c'est un musée qui est dans l'hôpital et non pas extérieur à la structure de l'hôpital. C'est un musée qui est ouvert en 1900... Le micro est fini. C'est un musée qui a ouvert en 1936 à l'Hôtel Dieu. C'était à l'époque la réunion de salles monuments historiques de l'hôpital de la Charité qui venait d'être détruit. C'était aussi réunir des documents anciens, des archives historiques et puis des objets qui avaient été collectés par un administrateur dans un hôpital, l'Hôtel Dieu, qui était à l'époque menacé de fermeture et de destruction par les élans modernistes du maire Édouard Herriot. Donc une vue du musée tel qu'il était ouvert de 1936 à 2010 à l'Hôtel Dieu. Alors c'est un musée qui était, il avait une exposition permanente, il y avait un billet d'entrée, on pouvait le visiter. Sur les dernières années, il coûtait très cher à l'institution, mais il y avait environ 10 000 visiteurs par an, notamment sur les journées européennes du patrimoine, sur la nuit des musées et puis les visites de scolaires. Et c'est un musée qui aujourd'hui, selon les interlocuteurs, on en parle comme d'un musée de l'Hôtel Dieu, un musée de médecine, un musée des arts décoratifs. D'une part, peut-être parce qu'il était relativement fermé sur lui-même, et d'autre part, parce que les collections des musées hospitaliers sont extrêmement variées. Et ici, on parle d'environ 15 000 objets qui sont tous protégés au titre des musées de France. Une autre salle avait été ouverte, et s'est ouverte seulement à la médecine dans les années 1970. Ça marche ? Là-bas, ça marche ? Il est éteint ?
Non.
Ben non, mais je sais pas. Est-ce que ça marche ? Non, mais je crois qu'il est. Et donc, dans les années 1970, il s'est ouvert à la médecine et notamment avec cette grande apothicairie de l'Hôtel Dieu qui avait fermé en 1942 et que vous pourrez bientôt voir. On va en parler tout de suite. Alors, quelques chiffres sur les hospices civils de Lyon, parce que c'est le deuxième CHU de France, c'est 14 établissements, 23 000 salariés, 930 000 m2 de surface hospitalière, 1 million de consultations par an. Ce sont des chiffres qui sont astronomiques. Si on veut parler d'alimentation, c'est 4 000 repas préparés chaque jour pour les personnels et pour les patients. Donc la question, c'est, il a beaucoup évolué en 1802 à la création des hospices civils de Lyon. C'était la réunion de l'hôpital de l'Hôtel Dieu et de l'hôpital de la Charité. Aujourd'hui, c'est quand même une autre dimension. Et comment on peut organiser ce musée, comment on peut le réinventer, alors qu'on a aussi une évolution, y compris dans les budgets inexistants, et le personnel, où je suis à mi-temps, puisque je me partage aussi avec le projet de valorisation et de restauration de la chapelle de l'Hôtel Dieu. Donc on travaille avec des partenariats. Comme on n'est plus, nous avons déménagé les collections en 2014, nous avons pu inventorier toutes les collections, répondre aux exigences du récollement décennal, nous avons pu photographier toutes les collections, nous avons une nouvelle réserve qui est à nous, qui est aux normes de conservation depuis 2018, et donc nous pouvons avancer. Nous pouvons avancer comment ? Alors en 2017, nous avons monté avec les archives municipales de Lyon et une association qui s'intéresse au patrimoine médical lyonnais, patrimoine médecine santé Lyon, Grand Hôtel Dieu de Lyon, une exposition qui s'appelait Rayon X, une autre image de la Grande Guerre, sur l'histoire de la radiologie, après une grande collection que nous avons, et son impact sur la Première Guerre mondiale et la prise en charge des blessés. Ici, j'ai mis une image de l'exposition virtuelle de cette exposition. Elle a duré 4 mois, ça nous a pris 2 ans de travail. Donc avec une autre association, nous avons fait une exposition virtuelle, ce qui fait que cette exposition est toujours visible à travers 16 panoramas et tous les objets. Là, vous voyez le petit rond orange. On peut cliquer et on peut voir tous les documents avec des petits cartels pour chacun d'eux. Nous mettons également les collections en ligne sur Joconde, maintenant la plateforme ouverte du patrimoine. Nous en sommes à 1613 objets en ligne, donc pour l'instant ce n'est toujours que 10% des collections. Mais nous les mettons et puis nous essayons d'offrir sur notre site internet des documents, des dossiers un peu documentés sur les commodes lyonnaises, sur l'électricité et la radiologie autour de la collection qui nous a permis de faire l'exposition Rayon X. Et puis, vous pouvez voir sous le portrait de cette sœur hospitalière qui est maintenant à l'Hôtel Dieu, le J et le W, c'est que les collections sont en ligne sur Wikimedia Commons et sur Joconde. Et donc, dans ces documents, on peut aussi avoir plus d'informations sur chaque œuvre à travers leur mise en ligne. Le numérique est un fil rouge pour nous autour, comme le musée est fermé, puisqu'on peut accéder comme ça aux collections de n'importe où, mais aussi la question peut se poser entre des espaces physiques et le numérique. Pour les Journées européennes du patrimoine, nous avons lancé un audio guide de l'hôpital Édouard Herriot, qui se trouve à Grange Blanche, qui a été construit dans les années 30 par Tony Garnier, et dans le cadre des 150 ans de Tony Garnier. Donc c'est un ensemble à la fois de stations qu'on pourra dépeindre, qui permettent de comprendre l'histoire de l'hôpital, mais qu'on pourra aussi améliorer. On peut le reprendre au fur et à mesure, et faire une deuxième version peut-être pour les Journées du patrimoine de l'an prochain. Nous intervenons aussi dans les hôpitaux, et ça n'avait jamais été fait quand le musée était à l'Hôtel Dieu. Alors nous sommes intervenus récemment à l'hôpital Antoine Charial qui est à Francheville et qui va fermer ses portes fin 2020. Il date des années 70 et autour de la fête des familles centrée sur le thème des années 70, nous avons lancé un premier acte, il y en aura 3 autres, qui documente avec ces magnifiques panneaux faits de feuilles A3 collés sur du carton plume. Donc quelques éléments d'histoire sur ce site et sur la gériatrie. Et puis, c'est une exposition historique et participative avec des panneaux d'empreintes des résidences, c'est un hôpital gériatrique et un EHPAD, et puis des photos ici avec les résidents et leurs familles. Et certains, quand les photos sont resserrées sur le cadre qui est au centre, une dimension presque picturale où on peut découvrir les patients autrement que les soignants les connaissent le plus souvent. Là où était le musée à l'Hôtel Dieu, se trouve maintenant la Cité internationale de la gastronomie qui a ouvert le 19 octobre dernier. Et on a pu, grâce en particulier au soutien de la DRAC, implanter, regarder les salles de la charité, réimplanter l'apothicairie de l'Hôtel Dieu que vous avez vu tout à l'heure et qu'on voit dans le fond, remise dans la salle qui était la salle d'entrée du musée où tout à l'heure vous avez vu les vitrines. Et donc il y a 327 pots de pharmacie et une centaine d'objets qui sont maintenant tous sur la plateforme ouverte du patrimoine. Donc ça c'est un dépôt, ce n'est pas le musée des Hospices Civils de Lyon, mais c'est une façon aussi de montrer les collections. Le musée donc n'étant plus nulle part, il est partout, il est en particulier encore à l'Hôtel Dieu. Et puis nous avons construit des médiations avec l'association Spécimen depuis quelques années, ici autour donc un Times Line. En fait, le principe de ce jeu, c'est qu'il y a plusieurs inventions. On voit les inventions, il faut arriver à les positionner dans une frise chronologique, et puis ensuite on le retourne et puis on peut le découvrir. Et donc il y a toujours des étonnements, et notamment la médecine, c'est souvent très étonnant parce que quand on se rend, il y a beaucoup de tout ce qu'on connaît quand on va chez le médecin, le stéthoscope, la radiologie, sont des choses qui n'existaient pas avant le début du 19e siècle. Donc il y a aussi des surprises comme ça. Donc il y a eu deux médiations qui ont été faites à ce moment-là autour de l'exposition Rayon X, une autre qui était plus centrée sur la fabrication des rayons X en eux-mêmes, et puis une autre médiation à la chapelle de l'Hôtel Dieu pour les journées européennes des métiers d'art, pour découvrir les métiers d'art, donc différents métiers d'art, les matières utilisées, les techniques, pour qu'à côté des restaurateurs et des artisans d'art qui étaient présents, les jeunes publics en particulier puissent être sensibilisés à ces métiers et peut-être susciter des futures vocations. Et donc nous avons à la croisée des médiations et d'une volonté de musée numérique, imaginé un projet que nous avons appelé « Promenons-nous dans l'Hôtel Dieu », histoire de ne pas non plus trop quitter l'Hôtel Dieu, avec un volet numérique qui est en cours d'élaboration et une médiation que nous avons menée dans les hôpitaux. Et ici, quelques objets qui font partie de cette médiation. Alors il faut savoir qu'en interne, le musée des hospices, dans les Hospices Civils de Lyon, il y a un directeur qui s'occupe du volet culture et santé, et il y a des liens, mais pas encore énormément, entre le patrimoine, entre le musée et la chapelle, et le volet culture et santé. Et il y a toujours des craintes quand on parle d'un musée hospitalier, on imagine qu'on va parler...
Des tout neufs, presque.
Super. Il y a toujours des craintes dans les musées hospitaliers où quand on me dit « mais vous allez parler de médecine, vous allez parler d'instruments chirurgicaux à des gens qui sont en situation d'hospitalisation, mais c'est la dernière chose dont ils ont envie de parler. » Et en fait, on s'est rendu compte que pas du tout. Et pour ça, je vais laisser Carolina et Sarah vous présenter le jeu.
Association Spécimen, donc un collectif de médiateurs et de conférenciers lyonnais. C'est une association qui est assez récente, qui date de 2017. Notre objectif pour faire court, c'est valoriser la médiation sous toutes ses formes, à travers des projets originaux et sur mesure selon les structures et nos organes de développement. Voilà. On collabore avec Sergueï depuis 2017, d'ailleurs, à travers plusieurs projets. On a eu l'occasion d'intervenir plusieurs fois à la chapelle de l'Hôtel Dieu, donc vous en avez vu quelques images, sur la thématique des métiers d'art. Donc, notre animation qui s'intitulait « Les métiers d'art sur un plateau », elle avait un double objectif à ce moment-là, c'était d'une part de valoriser la restauration en cours de la chapelle, donc la faire découvrir aux enfants et à leurs parents, par ce biais-là. et également de valoriser, de sensibiliser les enfants à des métiers qu'ils ne connaissent pas, des métiers d'art et à la restauration du patrimoine en général. Alors, on a commencé à valoriser vraiment les collections du musée des hospices civils à travers un autre projet, au Sacré-Cœur aussi, le projet Réunis, une exposition qui a eu lieu aux hospices, aux archives municipales de Lyon. Donc nous avons réalisé deux animations, une animation pour les enfants, une animation grand public pour les familles et les scolaires, et également une visite conférence, on va dire thématique, pour les adultes cette fois-ci. Donc une animation sur l'héroïque de manière générale et une visite conférence un peu plus complexe sur les différentes applications que peuvent avoir les héroïques au-delà du champ médical, sortir un petit peu de ce qui était évoqué justement dans l'exposition. Et on en arrive donc au projet L'Hôtel Dieu à la Loupe, et je vais laisser la parole à Sarah.
Bonjour à tous. Donc on revient sur le projet dont Sarah a parlé, donc prenons-nous dans l'Hôtel Dieu avec le volet médiation. Donc Sarah, trois minutes, c'est parti. Alors quand même l'objectif, c'est de se dire, ça paraît très naturel, mais proposer une valorisation des collections du musée des HCL auprès des patients des HCL, auprès du personnel des HCL, ça paraît évident, mais pas tant que ça, puisque c'était vraiment c'est une première, c'est un premier lancement. On espère évidemment que ça se poursuive. Ça c'est l'objectif. Donc la demande de Sergueï, elle était multiple. Évidemment, valoriser des collections qui n'avaient pas forcément très bonne réputation, première chose. Les rendre accessibles dans un premier temps au jeune public, puisqu'on s'est vraiment focalisé dans un premier temps sur la pédiatrie, même si la gériatrie avait été évoquée et on aimerait bien poursuivre aussi avec ce public-là. Et puis effectivement, respecter aussi les spécificités et les contraintes qui sont liées au contexte hospitalier, qui est quand même bien particulier. On n'aura peut-être pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais on a apporté avec nous le jeu, et si vous avez des questions tout à l'heure, on y répondra avec grand plaisir. Donc c'était quand même un projet très complexe, avec bien évidemment un problème de budget, un budget insuffisant, mais nous un projet qui nous motivait énormément, notamment parce que le projet de l'association vise aussi les publics empêchés, les publics fragilisés. Donc pour nous, c'était évidemment un projet qu'on avait envie de soutenir. Donc il y a une très grande partie de mécénat de compétences pour que ce projet puisse voir le jour. Dans les grandes lignes, notre travail a consisté effectivement à sélectionner avec Sergueï des objets pour pouvoir montrer la diversité des collections. Alors soit des objets un petit peu curieux, atypiques, et puis pouvoir rebondir aussi sur l'histoire d'un lieu. Puisque vous le verrez tout à l'heure, et vous en avez quelques exemples, on s'est basé sur un plan du 18e qu'on a repris pour notre jeu. C'est un jeu qui devait être très adaptable, puisqu'on avait une demande, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir deux enfants jusqu'à 10 enfants. On s'est arrêté à la contrainte de 10 joueurs. Le plateau fait quand même 1m20, puisqu'on a effectivement dû penser à des jeunes qui pouvaient se trouver en fauteuil roulant, donc il fallait suffisamment de place pour pouvoir positionner tous les enfants autour du plateau, non seulement des fauteuils, mais aussi des dispositifs de soins médicaux, des enfants perfusés, etc., avec des pathologies différentes et parfois des enfants de services différents. Des écarts d'âge également très importants. Alors pour les concepteurs de jeux pour jeunes publics, c'est quand même une question qui nous taraude. Là, on était en réalité sur un public âgé de 6 ans à 18 ans. Voilà, donc c'était quand même très large. Il fallait un jeu simple, mais pas trop simpliste. Un jeu qui permette aussi un développement de connaissances quand on était avec des enfants plus âgés. Et tant mieux, ça a quand même plutôt bien fonctionné, je laisserai Carole en dire deux mots. Et puis énormément d'échanges avec le graphiste, on tient quand même à en parler, parce que c'est très important de pouvoir avoir la visibilité d'un professionnel pour pouvoir transcrire justement nos souhaits sur ce jeu.
Je compte une minute. Ouais.
Non, pas une minute, 30
secondes. Non, 30 secondes, parce que le jeu, on vous l'a montré, mais on vous a pas dit ce que c'était. Le but du jeu. justement, donc l'hôtel du Hallalum, c'est de retrouver un objet qui a été perdu au moment du déménagement du musée des hospices, quand il est parti de l'hôtel du justement. Donc les enfants, à travers des cartes indices, des cartes objets, vont finir en mutualisant leurs connaissances selon les âges. C'est là où avoir 18 ans, ça peut aider un petit peu. Et en mutualisant également leurs recherches. C'est là où avoir 6 ans, ça peut aider aussi, parce qu'on se rend compte que les petits trouvent ce que les grands ne trouvent pas. Donc c'est un jeu où on va tous gagner ou tous perdre. Jusque-là, on a tous gagné. On nous a commandé une dizaine de séances. Je voulais juste évoquer quelques retours qu'on a eus, parce qu'il y a eu énormément de préjugés. Alors là, c'est les animateurs de l'hôpital qui l'ont évoqué avec nous. Vis-à-vis des collections, c'est ce que Sergei évoquait tout à l'heure, c'est des collections historiques, des collections médicales, des objets auxquels les enfants peuvent avoir l'occasion d'avoir affaire justement dans des moments pas très amusants. Donc ça, ils avaient assez peur qu'on arrive justement avec leur seringue à lavement, leur en parler, ils ne pensaient pas que ça ferait rire les enfants. Finalement, ça a fait beaucoup rire les enfants. Il y avait également une appréhension plutôt sur notre capacité à être à l'aise avec les enfants qui sont en cours de soins, hein, c'est des enfants qui arrivent occupés en fauteuil roulant. Bon, ce qui s'est très très bien passé, c'est qu'autour d'un jeu, les enfants, quoi qu'il arrive, ça reste des enfants. Et le personnel autour s'est mis à jouer, si vous me permettez l'expression, vraiment comme des gamins, on ne les arrêtait plus. Donc ça, finalement, c'était le... J'essaie d'aller très vite, mais du coup, je l'avoue. C'était, je pense, le côté vraiment positif d'amener un jeu dans l'hôpital. Pour nous, c'était de se rendre compte de la bienveillance des enfants de différents services, les uns avec les autres, les âges différents également. Pour les soignants, mais surtout pour les animateurs, c'était voir les enfants dans un autre contexte, interagir différemment, sortir de leur coquille aussi. Et on s'est rendu compte, on a eu des retours sur ce qui se passait après le jeu. C'était un moment aussi qui favorisait le lien avec les parents. Donc les enfants parlaient du jeu, parlaient de leurs nouvelles connaissances aux parents. Et on a également eu justement des parents qui sont venus jouer et des fratries qui sont venus jouer. Donc on n'a pas eu que des enfants hospitalisés, on a eu aussi voilà, tout le cocon familial qui s'est un petit peu agglutiné autour et qui a créé voilà, des vrais moments de partage qui ne sont pas toujours possibles selon le calendrier. Parce que ça, nous, c'était la grande découverte, c'était se rendre compte que voilà, les enfants, ils avaient une intervention 5 minutes avant et 5 minutes après, hop, c'était parti. Donc c'était une bulle, une ouverture. Genre, nous,
voilà. Bon, je suis un peu dure hein, avec vous, mais c'est ainsi. Et puis, il y avait tellement de choses à analyser, à décortiquer d'un projet comme celui-là, du premier qui nous a été présenté, que c'est un peu, il ne faut pas se retirer toute la possibilité aussi peut-être d'échange hein, avec des choses qui vous sont apparues dans ces deux présentations que vous aimeriez soit zoomer un peu plus, comme on a fait tout à l'heure avec la question de madame, soit du tout peut-être aborder une ou deux questions, ce que je trouve vraiment très drôle. En fait, je ne sais pas si on a fait exprès, enfin si Cyril a fait exprès, nous, mais c'est d'avoir la première présentation d'un jeu de mémoire, et puis là c'est plutôt le jeu de musée en fait, hein, parce qu'il s'agit d'un objet oublié par le musée quelque part. Donc ça c'est assez intéressant, parce que la dimension d'oubli est évidemment aussi intéressante, et en tout cas c'est un musée qui ne veut pas se laisser oublier, c'est ce que j'entends à travers la métaphore de ce jeu peut-être, mais d'un musée qui cherche son identité, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, c'était marqué dans la présentation. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est tout d'un coup, hein, on a besoin de l'autre. Hein. C'est-à-dire que c'est pas, les enfants n'avaient pas, a priori, besoin plus que ça qu'on aille faire un jeu, parce qu'il y a plein d'autres jeux et ils ont sûrement plein d'autres possibilités de jouer. Mais en tout cas, le musée, lui, avait besoin aussi de ses publics. J'inverse un petit peu volontairement les choses, mais c'est vrai qu'on a tendance souvent à penser l'institution culturelle dans son approche, dans son... C'est ce côté un peu descendant, on leur a fait plaisir, on leur a apporté du bon temps, etc. Alors qu'en fait, c'est déjà et avant tout un musée qui aussi a besoin aujourd'hui d'exister et de trouver des formes d'existence dans des contextes, notamment dans un contexte qui paraît évident pour un musée des hospices de Lyon, mais qui en même temps n'est pas tant que ça, qui est aborder la question de l'histoire de la santé, de la mémoire de la santé, dans des contextes où se vit la santé au quotidien et de façon particulièrement quelquefois violente. Est-ce que quelqu'un a le temps, du coup, pendant les bavardages, de dénoncer, de formaliser une question, une proposition, une remarque? Ah, Brigitte, et nous avons le troisième rang.
C'est de savoir qualifier à ce jeu aujourd'hui sans forcément l'intervention des créateurs sans médiation. Est-ce qu'il a une vie au-delà aujourd'hui, au-delà du moment où il a été créé et pensé pour des actions spécifiques?
C'était la fin des notes, je ne sais pas pourquoi. Alors, le jeu, en fait, ne fonctionne pas, par contre, sans nous. Je ne sais pas si on a eu... Enfin, c'était assez limpide, mais en fait, c'est assez difficile. C'est un jeu qui ne peut pas fonctionner tout seul, même si on l'a évoqué avec les animateurs de l'hôpital, parce que ça pourrait être logique de leur laisser le jeu, de laisser s'approprier ces éléments, sauf que les enfants ne posent jamais les mêmes questions. Les discussions autour du jeu, elles peuvent partir. C'est ça l'intérêt aussi, que les médiatrices restent avec le jeu. C'est de pouvoir ouvrir complètement sur ces questions, que ce soit l'hôtel Dieu, que ce soit le devenir également des collections, parce que ça, les enfants ont beaucoup de questions. Quand ils comprennent au bout d'un moment que c'est un musée, mais que du coup, maintenant, c'est surtout des cartons, des réserves et du hors des murs. Il faut qu'on soit là pour pouvoir répondre, pour pouvoir alimenter toutes ces discussions, et c'est pour ça qu'on reste avec nous.
Il y avait un troisième point aussi,
Oui, merci pour cette présentation. Moi, j'aime être muséal, donc ça m'a intéressé ce que vous disiez, parce que je trouve ça surprenant, mais en tout cas, je m'en avais imaginé, sur le plaisir justement que les enfants avaient en entendre parler d'objets ou d'appeler, on avait envie de. Les mettre dans cette situation-là, où ce que vous disiez aussi sur le fait que les personnes hospitalisées, on ne peut pas penser qu'elles n'ont pas envie d'entendre parler de démarches médicales, alors qu'en fait, effectivement, c'est quelque chose qui est important pour elles. C'est intéressant en termes de représentation et du coup, un peu de l'autocensure, professionnelle dans nos approches de travail. Je vais vous remercier parce que moi, là, déjà, je progresse aussi dans mon impression de la médecine.
Oui, ça c'est un point effectivement très important, hein. C'est tout ce qu'on veut projeter effectivement sur la réception en étant du coup le médiateur devient un écran plutôt que le passeur et ça peut être effectivement important de se dire allons tester des choses, allons vérifier directement, allons proposer aux gens d'être acteurs et de nous renvoyer aussi quelque chose, de leur demander d'être contributeurs de notre réflexion.
Un élément à ajouter par rapport à votre question
Brigitte,
oui, c'est vrai que on a envie que le jeu puisse continuer à vivre. Alors vivre, pas forcément tout seul, mais vivre peut-être sous d'autres formes. Actuellement, il y a un scénario. On aimerait bien avoir deux nouveaux scénarios parce que des enfants qui ont déjà joué, ils ne peuvent pas rejouer, ils connaissent la chute. Peut-être des scénarios autour de thématiques spécifiques et peut-être des thématiques peuvent intéresser des partenaires avec lesquels ils pourraient nous accompagner. Peut-être la gastronomie de Lyon, peut-être autour de l'alimentation dans les hôpitaux, peut-être... autour de la pharmacie, enfin, autour de thèmes qui sont assez bien documentés et peut-être avec un projet déposé dans le cadre du dispositif Culture et Santé prochainement et donc en tout cas des partenariats et un projet qui est appelé à vivre et encore à se développer, à circuler et aussi dans les hôpitaux, les hospices civils de Lyon. Mais ce qui est intéressant sur ces formes-là, c'est qu'on peut très bien l'imaginer ailleurs et pas forcément à Lyon et pas forcément dans des hôpitaux, etc.
Alors, il y a eu d'autres expériences, hein, je me souviens de Gadag, il en fait aussi un projet hors les murs, dans les hôpitaux, avec un jeu, etc. Donc je pense que cette forme-là, elle existe, elle a plusieurs formes ou expériences. Il y avait aussi, à travers l'exemple de ce projet, une question surtout peut-être à Sergueï, en l'occurrence, mais qui était la question de ces hôpitaux, de ces musées d'hôpitaux, de ces musées hospitaliers aujourd'hui, hein, il y a une journée à Beaune là, dans 3 jours sur ce sujet-là qui va permettre aussi de se réinterroger. Mais c'est vrai que c'est un désir de beaucoup d'hôpitaux aujourd'hui d'avoir une partie de mémoire et de présentation de la mémoire de l'hôpital à travers quelque chose qui ressemble à une exposition, qui ressemble à un musée, parce que c'est aussi, finalement, c'est pas seulement le couplage d'un musée et d'un hôpital, mais c'est aussi la question de comment l'hôpital peut se doter ou a-t-il les moyens de se doter d'un outil qui serait pour se raconter à travers un musée, et que c'est une question quand même très sensible aujourd'hui. Et on voit à travers l'exemple des HCL, comment est-ce que toi tu vois cette question-là aujourd'hui très rapidement, mais de nous dire deux mots sur ton état d'âme là-dessus.
Musée fantôme, ça, merci. C'est vrai que la question de la nouvelle identité est aussi une question de légitimité. Dans un musée qui s'est très peu intéressé à tout ce qui s'est passé depuis 1950, qui avait eu une image de musée un peu poussiéreux, dans son jus, alors même que les objets étaient très bien dépoussiérés tous les jours à l'époque. Mais c'est vrai que cette image-là, c'est aussi une image en interne. Comment, par exemple, la direction de la communication peut imaginer intégrer le musée dans des actions, à l'origine, c'est pas évident. Il y a toute une réflexion qui est menée depuis quelques années. Là, maintenant, on a sur la marque Hospice. C'est intéressant de réfléchir sur la marque Hospice. Aux Hospices civils de Lyon, à Lyon, quand on en parle, la première image qui vient, c'est le patrimoine. Comment on l'intègre ou pas? Et du coup, il me semble qu'on peut l'intégrer si on a aussi des choses à dire, si on a des formes qui sont contemporaines. Ce qui n'est pas nouveau, en 1963, il y avait un audioguide au musée des Hospices civils de Lyon. D'après une spécialiste de la question, c'était l'un des premiers. Bon, il a dû tenir 6 mois, parce que je n'en ai pas trop entendu parler, mais c'est pas complètement nouveau l'innovation. Et un CHU, l'innovation, c'est quotidien. Donc c'est aussi cohérent que dans un musée, on soit aussi innovant. Et alors par rapport à la marque Hospice, vous voyez, on a un nouveau logo. C'est pour nous, c'est parce qu'en termes de communication sur la chapelle et le musée, on est constamment en train de louvoyer avec la charte graphique. Et puis cet été, on a un nouveau logo, c'est-à-dire qu'on a une reconnaissance plus affirmée dans l'institution et qui va peut-être aller croissante pour mieux intégrer le musée dans ce qu'il peut apporter à l'hôpital, en interface aussi avec l'extérieur, les institutions extérieures et avec les patients, les professionnels, les associations, etc.
Alors c'est vrai qu'on pense souvent le musée comme un objet vers des publics, vers l'extérieur, etc. Peut-être qu'il y a une fonction dans un complet, enfin je sais pas comment on dit, un centre hospitalier aussi gigantesque que les hospices civils, en fait c'est pas un centre hospitalier, d'ailleurs c'est un, je sais pas comment on dit. C'est peut-être, il y a combien, 12 000 salariés, c'est ça, enfin,
23 000
salariés. Peut-être que ça suffit de se dire que si c'est à l'intention des salariés. C'est-à-dire il y a presque une nécessité aussi aujourd'hui dans certains hôpitaux de faire des lieux de mémoire sur l'histoire d'un hôpital, simplement pour que des salariés qui changent tout le temps, qui sont en turnover permanent, qui sont dans une aussi un rapport au travail qui a énormément évolué depuis quelques années, puissent avoir là aussi un ancrage de la mémoire. Pourquoi est-ce que c'est toujours vers l'extérieur? Enfin voilà, j'interroge en tout cas cette question-là. Mais est-ce que les 23 000, c'est déjà plus du double que de visiteurs que vous aviez avant la fermeture? C'est-à-dire qu'on se dit, bah, tiens, mais est-ce que finalement il n'y a pas déjà une importance fondamentale à ce qu'une institution aussi importante, une institution publique, puisse avoir son propre outil pour se dire la mémoire, pour se la raconter? On n'est pas d'accord, peut-être.
Si, si, mais tout à fait.
On s'arrête là, non? Il faut qu'on passe à la... Ou est-ce que quelqu'un d'autre avait...
Ok, merci beaucoup à tous les intervenants.